ange. Vous avez offert un avenir à ce petit. Je vous souhaite à vous, à votre mari et à votre petit garçon de très belles années de bonheur.
Oh, c'est gentil.
Vraiment. Donc, je suis contente d'avoir eu de vos nouvelles parce que vraiment, maintenant, oui, je me souviens de vous. Mais oui, je me rappelle parce que ce petit garçon trouvé dans un carton en Tunisie et vous qui l'adoptez et qui lui offrez la meilleure vue possible, bien sûr. Donc, ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur du César. Au contraire, ils vont être d'un grand soutien. Je vous embrasse, Leïla. Une bonne chose à vous et à votre petit.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. RTL. RTL, il est 23h. L'heure de retrouver Julia Van Elst pour les informations. Bonsoir Julia.
Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. À la une ce soir, un dénouement dans l'affaire Kenji Girac. Le chanteur a changé sa version. Il dit maintenant avoir simulé un suicide après une dispute avec sa femme qui menaçait de le quitter. Lors de son passage à l'acte, le chanteur était fortement alcoolisé et positif à la cocaïne. Sa femme a parlé d'une personnalité fragile. Olivier Jean, son procureur de Mont-de-Marsan.
Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait. Elle précise néanmoins, je souhaite le faire pour éviter toute ambiguïté, que si cette situation générait des disputes, Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qu'il pouvait des objets lorsqu'il était dans cet état.
Olivier Jean, son procureur de Mont-de-Marsan, et a noté que l'enquête devrait maintenant être classée sans suite, puisqu'une simulation de suicide ou une réelle tentative de suicide ne relève pas du pénal. Nous sommes à 3 mois des JO et les mesures de sécurisation de la cérémonie d'ouverture se précisent. L'aménagement des quais de Seine commencera le 17 juin. Pour les ponts, ce sera à partir du 15 juillet. Et le 18 juillet, donc une semaine avant la cérémonie d'ouverture, il ne sera plus possible de circuler dans la zone rouge, sauf dérogation. Le périmètre de protection antiterroriste sera également étendu aux immeubles en bord de Seine, annonce du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. À l'étranger, aux États-Unis, 7 ans après la naissance du mouvement MeToo, la cour d'appel de New York annule la condamnation d'Harvey Weinstein pour viol et ordonne un nouveau procès. Pour la juridiction, des erreurs de procédure ont été commises durant le très médiatisé procès en 2020, au terme duquel l'ancien producteur de cinéma avait été condamné à 23 ans de prison. Il avait remporté la Palme d'Or à Cannes en 2008 avec son film Entre les murs, qui racontait le quotidien d'une classe d'un collège parisien. On a appris la mort de Laurent Cantet. Le cinéaste était malade, il était âgé de 63 ans. Et puis un mot de sport, en tennis, Rafael Nadal se qualifie pour le deuxième tour du tournoi de Madrid. C'est la dernière fois que le champion de 38 ans y participe. Rafael Nadal a expédié l'Américain Darwin Blanche, âgé de seulement 16 ans, en 2-7, 6-1-6-0. Il affrontera au prochain tour l'Australien Alex de Minaur. La météo demain, le temps se dégrade. Au nord, ciel perturbé, souvent nuageux avec des averses. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné avec du soleil et du vent. Les températures, elles remontent. Pas de gelée le matin. L'après-midi, il fera jusqu'à 14 degrés au nord et 19 degrés au sud. Et pour finir les courses, départ demain 20h15 à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 5, le 10, le 3, l'As, le 9, le 11, le 8. Et l'outsider de RTL, c'est le 3 et il s'appelle Galion. RTL, il est 23h03 et on vous retrouve, Caroline, pour la suite de Parlons-nous.
Merci, ma chère Julia. Vous revenez
Merci
nous voir
à
minuit.
Tout à fait.
Alors, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bonne nuit sur RTL. RTL, vivre ensemble. Julien Courbet, ça peut vous arriver.
On n'achète pas les yeux fermés, on regarde les prix au kilo. Et samedi, j'ai acheté des céréales d'une très grande marque, le petit paquet et le grand paquet. Et devinez quoi, au kilo, le petit paquet m'a coûté moins cher que le grand paquet, alors que ça devrait être l'inverse. Le petit paquet, c'est le paquet sur lequel les enseignes s'alignent les unes les autres. Et au bout de ce qu'on appelle la guerre des prix, le petit paquet devient pas cher par rapport au gros paquet.
Le journal des arnaques, c'est tous les matins à 11h. Dans Ça peut vous arriver sur RTL.
Bonjour. les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, 26 avril, je vous parlerai d'une tragédie qui a enfanté un des tableaux les plus célèbres du monde, Guernica.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
22h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Merci de nous rejoindre sur RTL. C'est Parlons-nous, c'est votre rendez-vous du soir de 22h à minuit et demi sur l'antenne d'RTL. On se parle, on partage nos histoires de vie, on débat aussi si vous le souhaitez autour de sujets qui vous concernent. Et parce qu'il est parfois compliqué de se confier à ses proches, je suis là pour vous, à votre écoute, pour vous proposer mon éclairage et mon aide aussi. Tous vos appels sont les bienvenue au 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Vous pouvez l'appeler également si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, lui témoigner de votre soutien. Si vous préférez réagir par écrit, eh bien, il y a les SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, et la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et quand je parlais d'histoire de vie avec Leïla, qui était avec nous juste avant les informations de 23h, bah, c'est une sacrée histoire, puisque Leïla nous disait que lors d'un séjour en Tunisie, elle avait trouvé dans un carton un petit bébé de 2 jours qui avait été abandonné avec une lettre. Et ben, Leïla, avec son mari, 60 ans, lui qui a 10 ans de plus, ils ont tout fait pour adopter ce petit garçon qui a 9 ans aujourd'hui et qu'ils entourent de tout leur amour. Et comme le dit Cathy de Paris, elle dit « le ciel était vraiment là pour ce petit et pour Leïla et son mari ». Elle dit « c'est quand même impensable ». Ben oui, il y a encore des enfants comme ça, on oublie ici dans nos pays plus riches, plus développés, mais il y a encore des pays où on trouve des enfants comme ça dans des cartons au coin des rues. Et finalement, il avait une bonne étoile, ce petit. Ça fait réagir aussi sur la page Facebook, j'imagine. Ouais, cette histoire émouvante de Leïla.
Et pas que au 09 69 39 10 11 aussi, on a eu beaucoup de gens, je pense à Annie. Là, il y a Christiane qui dit vous êtes très méritante, très courageuse. Elle a une belle énergie, Leïla. Félicitations.
Ah oui, parce que.
Il y a Marc aussi.
Mais ça a dû lui donner, on en parlait avec Marc, pardon, excuse-moi de t'interrompre, Paul. Mais on en parlait pendant les infos, on s'est dit en même temps, elle a une énergie formidable, mais ça a dû donner un regain de vie, de joie dans la maison, ce petit bonhomme.
Marc aussi qui a trouvé Leïla très touchante, une belle personne, un exemple d'humanité dans une époque où les chaînes d'infos nous n'annoncent que des catastrophe. Il y a Isabelle aussi qui parle du CESAD, qui est un établissement médico-social. Oui. Pour en bénéficier, la famille doit en faire la demande à la MDPH. Ça a dû se décider lors d'une réunion à l'école. En tout cas, il ne faut pas s'inquiéter. Le CESAD n'enquête pas du tout. Et elle dit ça, Isabelle, elle est enseignante spécialisée.
Ben merci Isabelle.
Il y a Nathalie aussi qui dit « Moi je vous entends tellement impliquée, vous êtes une mère protectrice, aimante. Jamais personne ne vous le prendra.
Mais non.
Votre fils, rassurez-vous, vous êtes bien entourée parce que vous, surtout vous avez tout mis en place pour lui. Vous êtes une mère géniale, Leïla. » Et puis Lola qui dit « Tiens, pour le fils de Leïla qui ne mange pas le matin, il existe une sorte de crème, dessert, alors chocolat, vanille, coco, fraises, framboises, etc. en berlingot ou à boire. C'est entièrement remboursé par la Sécu sur prescription médicale. C'est ultra vitaminé, protéiné, très nutritif. Et ça pourrait peut-être se substituer au yaourt du matin. » Voilà.
Mais oui, merci Lola. C'est vrai, c'est ce que je pensais parce qu'il est un peu chétif, mais bon, il prend un traitement aussi qui malheureusement a cet effet secondaire là de la perte d'appétit. Et il y a des produits comme ça, vitaminés. Oui. Bah merci pour toutes ces infos.
Et sur un tout autre sujet, j'ai reçu des messages de Benoît, par exemple, et puis aussi au 09 69 39 10 11, un message sur le répondeur d'une dame. Alors, j'ai pas son nom, son prénom, elle le dit pas dans le message, mais elle dit « Je suis une petite mamie de 88 ans et je souhaite une très bonne fête à Marc Bisset, parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Marc. »
Oh, mais heureusement qu'elle y pense, cette dame. Mais Marc, branche ton micro et merci. Ben si. Ah non, mais oh ben alors franchement, j'ai honte. Je suis très anniversaire, mais les fêtes en revanche, j'ai un. Mais alors, il trouve pas son micro,
ouais,
Marc.
Il trouve pas son micro.
Non, mais c'est pas possible. J'avais complètement oublié. Bonne fête, Marc. Ben oui, bonne fête et bonne fête à tous les Marc qui nous écoutent. Ben merci à cette dame d'avoir pensé à notre Marc. Il est pudique. Il n'ose pas, mais il est très touché que vous ayez pensé à lui. Il est tout rouge.
Comme un micro d'RTL.
C'est l'heure où les souvenirs se ramènent, juste quand le sommeil se met en grève. Le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le manque, et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin, si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois. Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Y a déjà moins de soucis à se faire. Tiens, le bar tabac de la rue Clichy, où tu t'envoies ton petit crème. Je le connais par cœur. Je peux même le dessiner les yeux fermés. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie, sur les clichés trop pâles d'une love story, sur les tatames d'une femme sans alibi qui rêve toute ses nuits. Juste une mise au point pour un petit clin d'œil de survie pour tous les fous, les malades de l'amour, pour toutes les victimes du romantisme comme moi. Juste nos vacances au soleil, sous les du bébé, dans un institut de beauté. Notre superbe voilier qui a jamais vu la mer. Nos lits improvisés sur un morceau de moquette. Les discussions de fin de soirée chez les copains. Ah oui, parlons-en des copains, pour foutre la merde et son champion. Gros plan sur tes yeux quand ils me disent je t'aime. Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde, la rue des Bernardins et le square Gambetta. Nos crises de fou rire juste au mauvais moment. Et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous. Puis, notre premier rendez-vous dans un nightclub désert, avec la bonne copine qui veut pas tenir la chandelle et qui se tire en râlant.
Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie, sur les clichés trop pâles d'une love story,
du
Oh là là, Jackie Quartz, j'ai à nouveau 17 ans, moi, quand j'écoute Mise au point. Merci, merci Pascal Amiot pour ce bond dans le passé qui fait du bien. Et j'imagine à vous aussi, à Bruno, il dit oh, que de souvenirs des années 80 avec cette chanson de Jackie Quartz. Merci Pascal Amiot, c'est le directeur musical de la station. Et voilà, il fait des petits mix comme ça de chansons d'actu aujourd'hui, et puis flashback dans le passé. Et c'est fou, hein, le pouvoir évocateur comme ça d'une chanson. On y est à nouveau. Allez, on se reprend et on accueille Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue Marie. On a une petite voix.
C'est normal, je suis encore en convalescence, mais ça va aller.
Ah mince, qu'est-ce qui vous arrive?
Voilà, j'ai juste failli mourir il y a deux semaines d'un choc respiratoire.
Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé?
Moi j'ai une maladie génétique et j'ai eu un choc respiratoire qui a été doublé d'un choc anaphylactique quand on a voulu changer mon traitement.
Bah dites-moi, comprends que vous ayez une petite voix, parce que vous êtes encore très, très faible.
Ça va,
heureusement, vous êtes là, vous vous remettez, vous êtes au repos.
Oh, moi, je suis là, je suis bien, j'ai mon chien, tout va bien.
Oh, mais on s'est déjà parlé. Je connais effectivement, je reconnais votre voix maintenant.
Oui.
Bon, mais écoutez, il est important de reprendre des forces.
Oui. Il n'y a pas de souci.
Vous voulez me parler surtout d'un ami, je crois.
Oui, j'ai un ami que je connais depuis plus de 20 ans.
Oui.
Je l'ai rencontré quand j'étais dans la rue. J'allais dire j'habitais dans la rue, non, j'habitais pas. Quand j'étais dans la rue, il m'a aidé à sortir de la rue.
Oui.
Et donc on est resté. C'est pour moi, c'est comme un père en fait, parce qu'il a, il a été là quand j'étais toute seule. J'avais à l'époque 19 ans, donc.
Mais oui, je me souviens de votre parcours. Oui. Et vous m'en aviez parlé d'ailleurs déjà de ce monsieur, de la place qu'il avait pris dans votre vie, parce que une époque difficile.
Voilà. Et en fait, c'était un monsieur qui a perdu sa maman juste avant de me rencontrer. Je sais pas si on peut dire une coïncidence, mais il venait de perdre sa maman quand il m'a aidé. Et en discutant avec sa grande sœur, en fait, elle m'expliquait que avant la mort de leur maman, c'était un obsessionnel du rangement. J'avais été assez étonnée quand elle m'a dit ça parce que moi, je l'ai toujours connu avec une maison en bazar. Ouais, mais d'accord. Plus les années passent, plus le bazar devient problématique.
Il est revenu vivre dans la maison
En fait, oui, il a hérité de la maison à laquelle ils ont grandi avec ses deux sœurs.
D'accord, oui.
C'est une maison qui avait été construite par leurs parents.
Oui.
Avec une association, qu'il y en a plusieurs en France, qui s'appelait l'Association des Castors.
Donc les castors qui fabriquent
les gens
maison.
Se réunissaient entre eux et bon, ils n'étaient pas forcément dans la maçonnerie. Hein,
oui.
Parce que je crois que son père, lui, était comptable, quelque chose comme ça. Donc un truc qui n'avait rien à voir. Et en fait, qui savait faire du bricolage, de l'électricité, de la maçonnerie, chacun s'entraidait dans l'association. Et du coup, ils ont construit toute une rue comme ça.
Mais c'est génial.
Et il y a plusieurs villes en France qui ont fait ça.
Bah, il faudrait bien que ça revienne, hein, cette association.
Je ne sais pas si ça existe.
Avec la crise du logement, ça serait bien.
Peut-être que ça existe encore, hein, j'en sais rien.
Je vais regarder.
En tout cas, ça, c'était dans les années. Il est né en 47, il avait 8 ans, donc ça remonte. Hein. Donc voilà.
Il a quel âge maintenant, vous m'avez dit?
Il a 77 ans.
77 ans, d'accord.
Donc c'était il y a 69 ans.
Oui.
On va dire 70 ans qu'ils ont commencé à construire la maison, parce qu'il faut du temps, oui. Le temps qu'il construisait la maison, c'était dans les 70 ans. Et donc, il a hérité de la maison où ils ont grandi.
Oui.
Et donc, il est arrivé avec ses cartons où il avait fait sa vie d'adulte. Hein.
Et oui.
Et depuis 21 ans, donc, il n'a pas défait ses cartons.
Ah bon?
Les meubles sont toujours...
Ouais,
voilà. Et en fait, il y a une accumulation d'objets. J'ai lu, quand il n'y a plus de vaisselle, il en rachète. Quand il n'a plus de vêtements propres, il en rachète.
Ah.
Quand il ne trouve pas un livre, il le rachète. Enfin, c'est
parce que c'est tellement... vous y allez chez lui
Non, personne ne rentre chez lui. Même lui, il a du mal à rentrer chez lui. Donc,
tellement c'est encombré.
Pour vous dire que pour faire 10 mètres, il va mettre 3 quarts d'heure.
Ah bon?
Parce qu'il faut enjamber, poser, déplacer des cartons, remettre les cartons. Enfin, c'est.
Mais parce que alors, et en plus c'est la maison. Si c'est la maison, elle est remplie de souvenirs puisque c'était la maison.
Oui, parce qu'il y a également les affaires. Bah oui, forcément
de. Des parents.
Dans le grenier, il y a leurs jouets, les landaus de quand ils étaient petits. Il y a effectivement les affaires de ses parents et les siennes. Il y a les. C'est un bazar monstre.
Oui. Oui, donc et en fait, il ne vous n'y êtes jamais allé, il ne reçoit personne.
Moi, je suis déjà allée dans le jardin.
Ah, dans le jardin.
Oui.
D'accord, dans et le jardin n'est pas en. Il n'est pas encombré,
pas
le jardin.
Encore, ça commence, mais ça va. Mais de l'extérieur, en fait, vous voyez la maison de l'extérieur, les volets sont pratiquement tout le temps fermés.
Oui.
Et en fait, personne ne se doute de quoi que ce soit de l'extérieur.
Oui.
Mais moi, j'y suis allée en été, donc les volets étaient ouverts, et on voit à travers les fenêtres que ça va jusqu'au plafond, et des piles de choses hétéroclites.
Ça fait des piles de. Alors, il y a les cartons, mais il entasse aussi des choses jusqu'au plafond.
Ouais. Et je suis allée peut-être une fois chez lui, à l'époque où c'était encore, entre guillemets, un peu accessible, et j'avais eu une crise de fou rire parce que dans sa chambre, là où il dormait du moins, il y avait une pile de cartons de chaque côté du lit qui s'était un peu cassé la figure, donc ça faisait comme une arche au-dessus de son lit. Et plutôt que de ranger, il avait mis un panneau marqué « Attention, risque de chute de carton », alors qu'il n'y a que lui qui vivait là. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est Gaston Lagaffe.
De l'extérieur, ça voulait ça. C'est... Mais en même temps, c'est dangereux. Parce que s'il dort dangereux. Avec des cartons comme ça au-dessus, c'est pour
essayer. Mais il m'a déjà réveillé plusieurs fois en me disant que c'était pris un carton dans la tronche.
Donc déjà, quand vous y étiez allé, oui, la chambre était pleine de cartons, de. Et vous dites, alors, il vous reçoit quand même dans le jardin.
Oui, parce que en fait, toute l'année, il mange dans le jardin. Il a une espèce de table de camping pliable. Il mange dans le jardin parce que il peut plus manger dans la maison. Il n'y a plus de place.
Mais alors, même l'hiver, il mange dans son jardin.
Ouais. Et puis il n'y a plus accès non plus aux toilettes dans sa maison, donc il fait dans le jardin entre guillemets.
Ah
il
bon
avait un recoin dans son jardin, il avait été protégé entre guillemets parce que le voisin avait une haie. Mais bon, depuis cet été, le voisin a taillé sa haie, donc il n'y a plus de toilettes.
Ah oui.
Donc c'est arrivé
parce qu'il
à
était protégé.
Où c'est un sketch.
Comment?
C'est arrivé à des points où c'est un sketch quand il en parle. Mais c'est pas possible, c'est un sketch.
Parce qu'il vous le dit qu'il fait ses besoins dans le jardin.
Non, il me le dit pas. C'est quand j'y avais été, je lui ai dit, mais je peux aller aux toilettes dans ta maison? Il m'a dit, non, en fait, les toilettes, c'est le jardin. Quoi?
Ah, vous l'avez découvert comme ça, de façon fortuite. Oui.
Pardon, mais non, moi, je vais pas dans le jardin, j'ai pas d'équilibre des bords, donc je fais pas, en fait, dehors.
Et oui, mais les toilettes sont bouchées.
Ah, mais elles sont pas accessibles.
Ah, c'est même pas que. Parce que ça fait penser au témoignage que vous avez peut-être entendu, c'est peut-être pour ça, d'Anne-Marie qui nous parlait de sa sœur qui avait ses toilettes bouchées, donc qui faisait d'un
dessin. Non. Lui, c'est juste parce qu'il y a tellement de bazar. Donc, et c'est un ancien psychologue, comme quoi.
Vous m'aviez parlé.
Souvent les malchanceux. Et quand on lui dit, mais tu te rends compte qu'à ce stade-là, tu as besoin d'aide.
Oui.
Tu peux pas y arriver tout seul. Il faut vraiment que t'aies de l'aide parce qu'il faut tout sortir de la maison pour tout trier, tout ranger, voilà. Ben non, et en fait, non, je vais pas dire qu'il se complaît parce que je pense qu'il le fait pas exprès. Parce que pour moi, c'est une maladie, hein.
Oui, vous avez raison. Enfin, c'est un symptôme, en tout cas.
Une addiction ou quelque chose comme ça, voilà. Et tant qu'il est dans le déni que c'est juste, pour lui, c'est juste du bazar et il peut ranger comme ça en claquant des doigts, hein.
Enfin, quand on est amené à faire ses besoins dans le jardin parce qu'on ne peut plus avoir accès à ses toilettes. Mais alors, dites-moi, vous me dites que il a des voisins, puisque vous me dites que les voisins ont coupé la haie. Donc, ça veut dire que...
Oui, des voisins donc, qui sont dans la rue derrière, mais ça donne sur son jardin. Mais en fait, les voisins, on ne voit pas. Ils ne le connaissent pas forcément spécialement. Donc,
mais oui, mais si la haie est coupée, vous dites qu'il ne peut plus aller...
Non, mais du coup, il va en ville, il va dans les bars et il en profite pour s'acheter à manger en même temps. Voilà. Parce que, moi, avant, dans mon ancien logement, j'avais un logement insalubre, heureusement, je l'ai quitté. Mais en fait, avant, quand j'avais encore de l'électricité dans l'ancien logement, il venait souvent squatter pour manger.
Ah oui.
Et puis après, pendant un an et demi, moi, j'ai pas eu d'électricité du tout. Du fait de l'humidité des murs, l'électricité avait sauté. Donc, il a dû se débrouiller tout seul. Et puis là, dans mon nouveau logement, en fait, j'ai racheté l'électroménager, hein, que je mange quand même. Mais je lui refuse l'accès à l'électroménager parce que sinon, j'estime que c'est trop facile. Je dis, si tu veux avoir l'accès à l'électroménager, tu ranges ta cuisine. Et moi, j'essaie de lui faire avoir des
électroménagers. Mais il ne peut pas.
Maintenant, il ne peut pas. Je sais très bien, mais moi, au bout d'un moment, j'en peux plus aussi de l'avoir tout le temps.
Oui, parce que
dans les pattes, moi, j'ai une santé fragile aussi, précaire.
Oui,
j'ai besoin
je comprends.
De reposer.
Oui, non, je comprends.
Donc, lui, il a des horaires très particuliers. Il a un peu rien à faire des horaires des gens, d'ailleurs. Il est un peu centré sur lui-même. Pour vous dire, là, j'ai failli mourir à 2 semaines. Donc, il y a une semaine, moi, j'avais le droit de manger que du mou et du liquide, du fait de ma gorge qui avait été obstruée. Et donc, j'avais fait des compotes, mais comme j'ai vachement la dose inclus, je m'étais un peu trompée dans les doses, donc je me suis retrouvée avec 15 pots de compotes. Oups, j'en ai un peu trop, là. Donc, je lui ai proposé de venir en chercher. Et je lui ai demandé de venir en fin d'après-midi les chercher, parce que moi, je dors beaucoup, en fait, du fait de ce qui est arrivé. Et voilà, donc j'ai les piqûres le matin à 6h de morphine, donc j'avais besoin de me coucher tôt.
Oui, mais bien sûr.
Donc je lui explique en fait que il peut passer en fin d'après-midi. Il me dit oui, pas de problème, etc. Sauf qu'il a débarqué à 21h. Moi, à 21h, j'étais couchée, quoi, et tout ça. Et parallèlement à ça aussi, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai reçu une lettre quelques jours avant. De mon ex qui avait la gentillesse de m'envoyer plein d'insultes dans cette lettre. Bon, ce qui m'a fait plus rire qu'autre chose, moi, personnellement. Bref. Mais en fait, c'est lui qui me l'avait reçue dans sa boîte aux lettres, cette lettre, et qui me l'avait remise. Et il pensait machinalement que c'était un de ses courriers, il l'avait ouvert, et puis, non, en fait. Parce qu'il n'y avait rien écrit sur l'enveloppe, c'était à l'intérieur. Et donc, il m'avait remis la lettre en étant bouleversé par cette lettre, parce que pour lui, elle était horrible et tout.
Beaucoup, enfin, il a été là pour vous, c'est pour ça que vous m'en aviez parlé, que ça devenait compliqué, souvent il pouvait tenir des propos un peu durs, il est envahissant, il va très mal. Et d'ailleurs, vous me dites, Marie, que c'est après le décès de sa mère qu'il s'est laissé, Et souvent, on peut voir comme ça chez des personnes qui vivent seules, enfin, il y a un élément déclencheur et ça peut être justement un décès. Et le fait d'être revenu dans la maison familiale chargée de souvenirs, puisque vous dites dans le grenier, il y a les landaux quand ils étaient enfants, au fond, il ne peut rien jeter parce que chaque objet lui parle.
Oui, mais même des objets qui n'ont rien à voir. Parce que, pour dire, moi, j'ai des paires de béquilles, des décalements selon les étapes de ma maladie. Et il y a une année où j'ai cassé ma paire de béquilles en tapant dans l'escalier. Et donc, la médecin m'a prescrit une nouvelle paire de béquilles parce qu'on ne peut pas marcher avec des béquilles coupées en deux. C'est plus difficile, à moins de marcher sur les genoux. Et il a récupéré la paire de béquilles cassée, qui ne sert à rien.
Ça. Oui. Le syndrome d'accumulation, c'est-à-dire qu'il peut accumuler même des objets cassés.
Il perd aussi tout. Parce que, il y a 25 ans, il avait été chez l'ophtalmo, paraît-il, et il a perdu l'ordonnance. Donc, il y a 21 ans, on était retourné chez l'ophtalmo ensemble. Il a reperdu l'ordonnance, donc il n'a jamais changé ses lunettes, qu'il avait cassées, et qu'il a perdu dans tout ça. Et pendant 20 ans, moi, j'ai lutté avec lui pour qu'il retourne voir un ophtalmo, parce que l'âge aidant, ça n'aide pas la vue.
Bien sûr.
J'ai réussi à obtenir gain de cause ce mois-ci. On a été chez l'ophtalmo, il a des lunettes, enfin, des vraies. Parce que il a passé 20 ans avec des lunettes de supermarché.
Oui, il vous a écouté, là, cette fois-ci.
Voilà. Non, je ne lui ai pas laissé le choix, en fait.
Il a d'autres amis que vous ?
Plus beaucoup. Parce que la plupart se sont brouillés avec lui.
Mais oui.
Et puis, pareil, je lui ai pris son rendez-vous chez l'ORL parce que ça fait plusieurs années qu'il a les oreilles bouchées et qu'il suffit juste d'enlever le bouchon. Mais il a peur. Il a peur de tous les soins.
Oui, mais souvent, il y a une grande... Enfin, c'est ça, vous savez, là, il a vraiment... on en a parlé cette semaine, on a fait un parlons encore sur ce sujet avec Paul. Il a le syndrome de Diogène, hein, votre ami.
Oui, mais pourtant, il ne boit pas, il ne fume pas. Enfin, bref,
peut être atteint de... Oui, mais Marie, on peut avoir ce syndrome-là et pas avoir de problème d'alcool. Hein, ça n'a rien à voir.
Il est totalement dans le déni. Il y a un déni total.
Oui, mais ça va avec.
Et j'en avais parlé donc avec ma médecin parce qu'elle suit des personnes qui ont ça.
Oui.
Et en fait, moi, j'en ai parlé au départ, même pas par rapport à lui. Parce qu'en fait, moi, dans mon logement à Saint-Libre, en fait, j'étais dans un studio et j'avais un mur entier rempli de livres.
Oui.
Parce que comme je n'ai pas la télé, j'aime pas la télé, c'est pas mon truc, bah, je lis beaucoup. Parce que comme je suis souvent à l'été, ça aide. Et j'avais fait venir la. Je ne sais pas si ça existe dans tous les départements, mais nous, ici, ça s'appelle la Brigade Verte.
Ah c'est, non. Je ne connais pas.
C'est la mairie qui gère ça, je crois.
Oui.
Et donc, ils sont venus pour constater l'état d'indécence et d'insalubrité du logement.
Oui.
J'avais eu juste 27 inondations en 15 ans.
Oh là là.
J'avais fait 13 fois le dossier logement. J'avais demandé l'aide à la maire pour qu'elle m'aide à partir. Oui, on va vous aider, mais rien à péter. Malgré mon dossier MDPH, mais de mes médecins qui faisaient des lettres comme quoi j'ai une déficience viscérale, j'ai qu'un poumon. Donc, respirer des champignons, pas le top. Je passais le temps les fenêtres ouvertes, etc. Donc, ils sont venus juste avant mon anniversaire et ils m'ont fait le cadeau de me dire « Mais votre logement, la moisissure est saine. »
Quoi ?
Oui, oui.
La moisissure est saine.
Bah, oui, ça, je me rappellerai toujours cette phrase.
Oui, c'est un peu paradoxal, une moisissure saine.
J'aurais pu me faire des omelettes de champignons, finalement. Enfin, bref. Et tout ça. Et par contre, que mon vrai problème était le syndrome de Diogène, puisque j'avais une accumulation d'objets inutiles, des livres.
D'objets inutiles, des livres.
Ouais. Oui, ça ne sert à rien, des livres.
C'est curieux des trucs qu'il vous dit ça. Des mots,
ça ne sert à rien. Bon, enfin, c'est un des deux mecs, parce que l'autre, il n'a pas parlé du tout. Il a relevé des mesures, je ne sais pas à quoi il servait. Enfin, bref, alors que c'est complètement faux, parce que moi, j'ai des infirmières qui viennent tous les jours. J'ai mon médecin qui est venu plusieurs fois quand j'ai eu des besoins de piqûres importantes. Mmh. On peut circuler chez moi, il n'y a pas de problème. C'est vrai que j'ai beaucoup de livres.
Oui.
Alors, ils m'ont dit, mais vous avez au moins 1000 livres. Et tout ça. Et ils m'ont dit, on va vous faire un rapport défavorable, vous avez le syndrome de Diogène, etc. Donc, j'étais un peu sous le choc de ce qu'ils m'ont dit.
Mais oui.
Et le soir, dans mon lit, je m'amuse à compter tous les livres. Ben, j'en avais que 1299. Pas 1000. Bon, j'en ai racheté un pour que ça fasse un chiffre rond, puis c'est tout, quoi.
Oui.
En rigolant, quoi. Et j'en ai parlé avec mon médecin, et mon médecin, il a dit d'abord, il n'avait pas à dire vous avez le syndrome de Diogène,
non, parce qu'il n'est pas médecin. Pas comme ça, exactement.
Ensuite, vous n'avez pas le syndrome de Diogène. En fait, si tous les gens qui avaient le syndrome de Diogène que je suis, ils étaient comme vous, ça me faciliterait la tâche. Et tout ça, et elle en a rigolé. Et depuis, j'ai déménagé dans un logement de 12 mètres carrés plus petit. Et moi, j'ai réussi à tout caser. Et on peut encore circuler.
Et vous avez amené tous vos livres ?
Et j'ai tous mes livres. J'en ai même eu d'autres depuis.
Et dites-moi, donc, je pensais, vous me dites, votre petite chienne, comment vous avez fait alors pendant votre hospitalisation ?
Moi, je la fais garder, en fait. On a une voisine dans mon nouveau quartier qui est adorable, qui garde les chiens.
Ah, bah, tant mieux, parce que avec
ça. Mais moi, c'est la première chose que j'ai pensé quand j'ai failli mourir. Je suis souvent hospitalisée.
Mais je sais.
Quand j'ai failli mourir, c'est qu'est-ce qu'elle va devenir? J'ai même pas pensé, je risque de mourir, c'est.
Mais oui, je sais à quel point vous êtes attachée à elle.
Mais j'ai failli la perdre déjà au mois de.
Oui, oui.
Parce qu'elle a eu un cancer, donc.
Mais je me souviens, oui, et elle va bien aujourd'hui.
Elle pète la forme, elle a plus rien, tout va bien.
Oui, oui, vous m'en aviez parlé.
Elle est en pleine forme de.
Elle a dû être heureuse de vous retrouver, hein, de vous voir revenir.
Ah bah, c'est une fête pas possible. Et là, elle me colle.
Oui.
C'est mon petit pot de colle.
Ben oui. Bon, bah, écoutez, Marie, vraiment, je vous souhaite une bonne convalescence, un bon rétablissement.
Oh, bah, je m'en mettrai comme à chaque fois, vous inquiétez pas.
Oui, c'est vrai, vous êtes incroyable. Hein,
La bête est solide.
Bah, vous êtes. Et vous avez toujours votre humour. C'est ce qui vous aide. Oui, c'est ce qui vous aide.
Il faut.
Oui. Et puis, il a de la chance, ce monsieur. Il a été là. Enfin, vous dites, c'est comme un père pour vous à un moment où c'était tellement dur pour vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous dites, au fond, il a perdu beaucoup de ses amis parce que dans lui, malheureusement, on semble vraiment atteint de ce syndrome de Diogène. Et ça, ça joue
en fait,
aussi
son
sur.
Son comportement, ses attitudes qui font que les gens se brouillent avec lui. Il s'en rend pas
sûr.
Compte. Il dit qu'il s'en fiche du jugement des gens, mais je dis, mais même si tu t'en fiches, remets-toi en question de temps en temps.
Il ne peut pas, en fait.
Je sais qu'il ne peut pas.
Vous ne savez pas qu'il avait ce problème-là, votre ami.
Et le truc, c'est que, en fait, quand on dit, il y a des associations pour aider les gens à ranger ces maisons-là, je trouve que c'est une erreur, entre guillemets. C'est bien qu'elles existent, ce n'est pas la question. Hein. Mais en fait, tant que ces gens-là sont dans le déni, il ne faut pas le faire. Parce que nous, dans notre ville, on a beaucoup de personnes qui ont ça, apparemment. Moi, je ne sais pas si c'est dans le cadre de toutes les villes. Et il y a une personne qui avait ça, mais elle, c'était maison plus jardin. Et apparemment, cette personne a deux maisons, d'ailleurs. Et ses voisins ont fait une pétition parce qu'ils avaient peur que ça puisse les mettre en danger oui. au moment des gilets jaunes. Soi-disant que les gilets jaunes pouvaient passer par là et décider de mettre le feu à cette maison. Pourquoi cette maison-là en particulier, on ne sait pas. Alors qu'ils passaient même pas par là, en plus, les gilets jaunes. Et donc, ils avaient fait une pétition, la brigade verte est venue. Et ils sont passés 2 semaines entières à vider la maison et le jardin, pour vous dire qu'il y avait de la quantité.
Mais oui.
Ce monsieur avait été hospitalisé en psychiatrie, etc., le temps que ça se fasse. Mmh. Il est revenu peut-être 2-3 mois après, et 3 mois après qu'ils aient tout vidé, tout est comme avant.
Mmh. Oui, non, mais ça peut même être violent du jour au lendemain de tout vider, de tout jeter. Alors, évidemment, quand il y a des détritus, ces objets, en fait, ils en ont besoin pour vivre.
C'est comme
une partie d'eux-mêmes. C'est très compliqué.
Comme s'ils étaient dans un emmuré dans leur quelque chose qui les conforte, enfin, qui les rassure, qui les apaise.
Vous avez raison. Marie, je suis contente d'avoir eu de vos nouvelles et vraiment, je vous le redis, bon rétablissement, prenez bien soin de vous, reprenez des forces et puis vous faites une caresse à, comment elle s'appelle déjà votre...
Eden.
Comme
le jardin.
Ah bah oui. Vraiment tout un symbole. Je vous embrasse Marie.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Jusqu'à 12h30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
Bye.
Les Bee Gees sur RTL, Tragedy.
Vous faites vos fenêtres vous-même, Chantal Latsou.
J'adore ça.
Ah oui.
Ah oui, avec un papier de journal.
Ah oui.
Parce que ça ne laisse pas de traces.
Puis c'est vachement
et de l'alcool
bien.
À brûler.
Si tu frottes avec le monde, tu vois plus loin.
Je suis avec le nouvel observateur, ouais. Tu vois mieux.
Ouais. Avec le point, tu casses la vitre.
Oui, mais avec l'express, tu vas plus vite.
Et avec le parisien, avec tu râles tout le temps.
Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h. Et retrouvez lundi l'émission spéciale des grosses têtes depuis Montluçon.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Alors Marie, elle nous parlait de l'association des castors, puisque la maison familiale de son ami a été construite avec cette association. C'est super. Je savais pas, des gens comme ça qui unissaient leur talent pour construire une maison, pour s'entraider. Ben il y a Christophe qui dit mon grand-père maternel a construit sa maison avec les castors en 1954. Nous dit Christophe, c'est une belle image. Il y a une pub toute mignonne qui passe sur les castors en ce moment. Je sais pas, alors je retiens pas le pourquoi, mais on voit un couple de castors qui observent des humains qui posent du parquet, je crois, et qui disent sont très très forts ces humains. Ça passe beaucoup en ce moment. Et puis il y a Michel de Toulouse, elle dit à Marie, vous avez bien raison, gardez vos livres. Elle a de l'humour, Michel, elle dit c'est très bien pour l'isolation en plus. Et on accueille maintenant Cassandra qui nous rejoint, qui a appelé le 09 69 39 10 11, numéro que vous pouvez appeler jusqu'à minuit et demi. Bonsoir Cassandra.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Alors, ça fait un moment que je voulais vous appeler parce qu'en fait, on a plusieurs vies dans une vie, mais il y a des parties de vie qui nous manquent vraiment à jamais.
Oui.
Donc, je vous explique, on est quatre sœurs.
Oui.
On est trois sœurs qui vivent dans l'Hexagone.
Oui.
Et on est quatre sœurs. Les quatre vivent en Hexagone et ma mère est décédée. On est allé à l'enterrement de ma mère. Elle a fait une leucémie en 2016 et après, ben, il restait mon père.
Oui.
Mais mon père, à la mort de ma mère, Il a plus voulu avoir du contact avec ma première sœur. Il a dit que c'était pas sa fille. Il a attendu que ma mère soit décédée pour dire que non, il veut plus rentrer en contact avec ma première sœur.
C'est très dur pour votre sœur.
Comment ?
C'est très dur pour votre sœur d'être rejetée comme ça.
Elle a beaucoup souffert. Elle a souffert tellement que je suis obligée de mettre le parleur parce que je vous entends mal.
Ah non, oula Marc, là il est pas content quand on lui parle de haut-parleur. Vous verriez-le, il saute de son siège comme un cabri. Ah non, vous allez me le contrarier mon Marc là.
Ah d'accord. Alors je vous.
C'est sa fête aujourd'hui. Vous allez pas le contrarier le jour de la Saint-Marc.
Non.
Ah ben non. Ah, quand ça me rame.
Merci.
Moi je suis pour c'est la fête.
Non, vraiment. Déjà, il aime pas le haut-parleur, Marc, hein,
oui,
à l'antenne.
Mais
alors, en plus,
mal,
le jour de sa fête.
Mal.
Et ben alors.
Et là, vous m'entendez mieux, moi?
Alors, il va vous mettre le retour du son au maximum dans vos oreilles. Hein. Attention de pas faire un bond. Et non, oui. Parce que je suis désolée, Cassandra, mais les haut-parleurs, quand on est à l'antenne.
Si je mets un casque sur ma tête, ça va. J'entends mieux?
Écoutez, je sais pas Cassandra, mais nous, franchement, je vais parler le plus distinctement possible. Marc va vous mettre le retour du son au maximum, mais moi, on peut pas avec le haut-parleur.
D'accord.
Ça fait du larcène à l'antenne.
Ma vie a été très compliquée.
Mais alors, dites-moi, pour rester sur l'histoire de votre sœur là, parce que est-ce qu'elle avait dans votre histoire familiale, il y avait déjà eu des insinuations ou disons que votre sœur n'était pas la fille de votre père, votre sœur aînée.
La première.
Oui,
sœur.
J'ai bien
mais
compris.
Mais on savait pas.
Mais c'est très violent de dire, enfin, de tout d'un coup de faire éclater
ça. Quand ma mère est décédée. Oui. Le jour de le décès de ma mère, Ma sœur voulait prendre son bras pour, parce qu'on est allé à l'enterrement. Il a poussé ma sœur. Il regardait pas ma sœur. Il parlait pas à ma sœur. Il a plus voulu contacter ma sœur. Il a plus voulu. Et après, il disait que, ben, un jour, je suis allé dans le pays. Il m'a donné, il a passé un bâton dans sa bouche. Il m'a dit, donne à ma sœur parce qu'il faut qu'elle, parce que en fait, si vous voulez, la situation s'est retournée contre ma sœur parce qu'il disait à tout le monde que c'est ma sœur qui a dit qu'il n'était pas son père. Mais oh, non, c'était lui qui avait dit.
Mais il avait quel âge votre père en 2016?
Il avait 98 ans qu'il est décédé. Mais il est décédé.
Ah, il est décédé aujourd'hui.
Il est décédé un peu de forcé parce que j'ai la sœur qui faisait confiance, ma dernière sœur, il faisait confiance à cette sœur-là. S'il avait un papier qui arrivait, il appelait cette sœur-là. S'il avait, il voulait que cette sœur-là, oui. La dernière.
Oui.
Il voulait pas nous dire quoi que ce soit. D'ailleurs, le jour de la veille de sa mort, je l'ai eu au téléphone. Il toussait parce qu'il a fait un truc pulmonaire.
Oui.
Ma sœur lui demande, est-ce que tu veux me parler à moi? Il a dit non. J'ai entendu, hein, il a dit non. Le jour de mon anniversaire, je suis née le même jour que ma mère.
Oui.
Je téléphone, je dis ma mère bon anniversaire. Je dis, ben, vous savez quelle journée, là? Elle dit, ben non. Après, je dis, ben c'est mon anniversaire. Elle dit, papa dit à ma mère, prends le livret pour regarder si c'est bien mon anniversaire.
Ouais.
Vous voyez, il y avait des choses comme ça.
Ils étaient âgés aussi.
J'ai demandé à ma mère, est-ce que tu m'aimes? Elle dit, non, je t'aime pas.
Ouais.
Mais elle disait ça en plaisantant, je pense. Mais je me suis suicidée un jour, j'ai fait une tentative de suicide, j'avais 16 ans, 16 ans et demi. J'arrive de l'école et en plus, papa il battait maman pour ma petite sœur. Parce que ma petite sœur, si par exemple elle faisait une connerie, c'était pas elle qui, c'était papa qui battait ma mère. Battait ma mère. Moi, je passais devant à chaque fois, mais... J'ai pris sur moi, si vous voulez. Et un jour, je sors de l'école. C'était mon anniversaire. J'arrive, je dis, ben, ah, c'est mon anniversaire. Et je dis, qu'est-ce que vous allez faire cuire? Maman me dit, des breads. Des breads, c'est des feuilles chez nous, là. Je suis entrée dans la chambre, j'ai pris des cachets Propofol, je me rappelle encore. J'ai pris plein de cachets. Et à un moment donné, papa, il me voyait pas. Donc, il est venu dans la chambre. Il a vu comme si je bavais. Mais comme si pour lui, comme le drap était rouge, il pensait qu'il y avait du sang.
Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes replongée dans ces souvenirs douloureux? Parce que vous me dites qu'aujourd'hui, si donc vous avez perdu votre mère en 2016, votre père est décédé récemment, si j'ai bien compris.
Le 23 juin.
D'accord, oui, c'est ça. Donc, vous êtes replongé dans vos souvenirs.
Comment ?
Vous êtes replongé dans vos souvenirs.
Oui, quand il est parti, vous savez quoi ? Quand il est parti, là, je cotisais tous les mois dans une association qui me donnait le billet d'avion pour, à sa mort pour partir. Mais comme ma sœur avait vidé son compte, et la sœur qui l'a dit que c'était pas sa fille, là, l'a appelé un jour quand même pour essayer de lui parler. Elle a dit, il a dit que je surveillais ses sous.
Oui.
Ah ben là, j'ai cassé le... Comment vous dire? J'ai arrêté les cotisations. J'ai dit, bon, puisqu'il pense comme ça de moi, j'ai arrêté les cotisations. Et quand il m'a appelé pour me dire qu'il est à la rue, parce que ma sœur l'avait frappé, j'ai dit, papa, rentre chez toi. C'est chez toi. Tu rentres chez toi. Et je t'ai dit pour l'argent que ce que ma sœur faisait, je t'ai expliqué. Il m'a dit oui, ben il est en train de remettre en place.
Mais
vous savez quoi, j'ai eu un courrier de la banque.
Oui.
Le jour qu'il était en train de mourir, elle tirait les sous sur son compte et elle faisait des choses. Ouais,
on s'est déjà parlé, Cassandra.
Comment ?
On s'est parlé déjà, Cassandra.
Non.
Bon, écoutez, parce que... Ah bon, ben je me trompe alors. Parce que j'avais...
Non, parce que
c'est la première fois. Parce que je pardonnez-moi alors, j'ai une confusion avec une histoire de sœur.
J'ai appelé plusieurs fois, mais je raccrochais. Je ne pouvais pas prendre la conversation.
D'accord, bon.
Mais ce soir, je suis un petit peu, parce qu'en fait, je suis dépressive.
Oui.
Je suis sous des antidépresseurs.
D'accord.
Et je dois quitter ma maison parce que c'est trop cher. Et je vois personne.
Ça vous insécurise hein, de devoir changer de logement?
Oui, je vais vers ma fille qui habite un endroit où ben on voit quand même quelques personnes. Parce que là, je vous dis...
Vous ne voyez personne, là?
Non, du tout.
C'est bien alors que vous vous rapprochiez de votre fille.
Là, j'ai décidé, parce que j'ai attendu 2 ans. Mais là, j'ai décidé de partir, parce que c'est une grande ville où elle habite. Et j'ai décidé, c'est, on dirait que là où j'habite, il n'y a que des gens malades, il n'y a que des infirmiers qui viennent, il n'y a personne.
Et cette dépression dont vous souffrez, c'est suite au décès de vos parents?
Au décès, parce que le décès, c'est remonté.
Ça fait remonter beaucoup de choses en vous, et beaucoup de choses douloureuses.
Il frappait ma mère, il frappait ma mère pour ma petite sœur. Oui. Il frappait beaucoup ma mère. Ma mère, elle a eu... Je suis triste parce que ma mère, elle n'a pas eu d'amour de mon père. Elle aimait mon père. Mais mon père, je ne pense pas qu'il aimait.
Et oui, c'est toute cette tristesse.
J'ai jamais vu un geste d'amour. Par contre, peut-être il y avait l'amour, comment dire ça, à l'ancienne, je pense. Mais il n'y a jamais eu de geste. Vous savez, quand ma dernière sœur est née, on nous disait d'aller mettez-vous dehors. Alors, il y avait toujours des petits avions qui passaient là où on habitait. Et ils nous disaient, quand ils voyaient un avion, ils disaient, voilà, le bébé arrive dans l'avion.
Ah d'accord, c'était pas la cigogne chez vous, c'était plus moderne, c'était les avions qui livraient des bébés. D'accord, les petites sœurs arrivaient comme ça, par avion.
Oui.
Bon.
Oui.
Mais dites-moi, Cassandra, est-ce que, parce que vous me dites, hein, depuis le décès de vos parents, il y a tous ces souvenirs, alors il y a des souvenirs plus rigolos, comme cette histoire d'avion qui livre le bébé, mais il y a aussi des souvenirs plus sombres avec la violence. Vous me parlez d'un traitement que vous prenez, mais est-ce que vous avez un soutien psychologique?
Ben, pour l'instant, j'ai pas, je déménage. Dans 15 jours, peut-être.
D'accord. Peut-être que là-bas, ça serait bien, que vous trouviez, voyez, que vous ayez quelqu'un.
Il y a des associations. Parce que là, je suis dans un village, madame.
Donc vous êtes très isolée. Ça va vous faire du bien de vous rapprocher de votre fille. Et puis peut-être d'être, si je comprends bien, dans un endroit où il y a un peu plus de vie.
Elle m'a dit qu'il y a beaucoup d'associations, il y a des vies, il y a des bus, il y a des parcs.
Bon, donc vous pourrez un peu voir du monde, peut-être vous rapprocher d'associations. Et puis, vous savez, pour vraiment le traitement de la dépression, évidemment, c'est important d'avoir des antidépresseurs, ce que vous prenez, mais c'est important en parallèle d'associer une thérapie de soutien. Donc, allez déménager, essayez de trouver quelqu'un à qui vous pourrez parler de tous ces souvenirs qui remontent et qui vous font mal aussi, qui sont douloureux.
Et c'est bizarre parce que depuis la mort de mon père, je réfléchis comment il faisait, comment il nous tapait, comment ils ont couru chez les gens, dormait chez les gens la nuit, on revenait le lendemain, il tapait ma mère, tapait ma mère, tellement elle était frappée, elle avait une mâchoire qui était détraquée.
Oh là là.
Ma mère n'a jamais connu un cinéma, jamais connu un bal, jamais connu un rouge à lèvres. Vous comprenez, elle a vécu pour nous.
Je comprends que ça vous fasse de la peine.
Ma mère souffrait beaucoup.
Et puis un contexte de violence, et puis, je comprends.
En dernier, il était plus violent, mais il n'y avait pas d'affection.
Il était très âgé aussi.
Il n'y avait pas des gestes d'affection.
Oui.
Il n'y avait pas, par exemple, la fête des mères, un bouquet.
C'est tout ça qui vous fait mal.
C'est mon anniversaire. Ils ne savaient même pas que c'était mon anniversaire.
Oui. Bon, Cassandra, il faut. Est-ce que vous avez pris une sage décision là de oui. de vous rapprocher de votre fille, d'être dans un endroit où vous allez pouvoir un peu vous appuyer, vous, oui. où vous allez pouvoir avoir davantage de soutien autour de vous oui. et puis de vie autour de vous, parce que là, évidemment, l'isolement dans lequel vous vous trouvez, malheureusement, accentue aussi ces, ces pensées dans oui. lesquelles, voyez, vous ne pouvez pas en sortir. Donc ça va vous faire du bien. En plus, on va vers les beaux jours. Vous me dites, dans 15 jours, vous allez déménager. J'espère que ça va être un nouveau départ pour vous, où vous allez aller mieux. Soignez-vous bien. Soignez-vous bien, Cassandra. Vraiment.
Je vous... merci, parce que j'avais envie de parler. J'avais
je comprends. De... Mais ça va vous faire du bien de parler, d'ailleurs. Je pense que vraiment une psychothérapie de soutien me paraît nécessaire. Je vous embrasse et soignez-vous bien, Cassandra.
Merci beaucoup. Merci.
Oh, au revoir.
Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous.
Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.